Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, témoigner pour faire avancer la lutte contre l'inceste. Une plateforme d'écoute est lancée aujourd'hui qui s'adresse aux adultes victimes dans leur enfance. Leurs récits serviront à élaborer une nouvelle politique de prévention de ces crimes généalogiques. AZF, 20 ans après, les Toulousains restent profondément marqués par la plus grande catastrophe industrielle de l'après-guerre. Il y aura des commémorations aujourd'hui et nous serons sur place dans un instant. Joe Biden, Xi Jinping, grand face-à-face attendu à l'Assemblée Générale de l'ONU. Aujourd'hui, le machin, comme disait De Gaulle, c'est à lui que s'intéresse votre invité ce matin, Nicolas, et plus précisément à ses convictions économiques.
Oui, au micro de France Inter dans 20 minutes, c'est le président du MEDEF aujourd'hui, Geoffroy Roux de Bézieux, qui publie « L'intendant suivra !» point d'exclamation. De Gaulle et l'économie, c'est chez Robert Laffont en librairie après-demain. Le standard est ouvert et vous attend. 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, Alzheimer et les progrès dans la prise en charge précoce de la maladie. Universal entre en bourse, qui va rapporter gros à Vincent Bolloré. Et comme un fort parfum de conflit d'intérêts dans le jury du Goncourt cette année, on va tout vous raconter.
France Inter.
Ils sont 160 000 chaque année, 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. C'est une estimation qui fait froid dans le dos, surtout quand on sait que 70% des affaires, quand elles sont dénoncées, sont classées sans suite. Il reste donc bien des progrès à faire et c'est la vocation de la commission indépendante nommée dans le sillage de l'affaire Duhamel et de la libération de la parole qui a suivi. Elle lance aujourd'hui une plateforme d'écoute pour recueillir la parole des victimes pour qui la justice ne peut plus rien. Leur témoignage servira à construire une véritable politique de protection des enfants. Cette protection qui a cruellement manqué à Angélique Mouly, 33 ans, victime de son beau-père entre ses 7 et 10 ans, comme elle l'a raconté à Rémi Brancato.
Ce qu'elle appelle la terreur a débuté à ses 7 ans. Pendant 3 ans, Angélique Mouly est abusée par son beau-père.
De 7 ans à 10 ans, c'était quelque chose qui arrivait plusieurs fois par semaine. Ma mère travaillait tous les soirs, ça pouvait arriver tous les soirs. Ce qui était important quand j'étais à l'école, c'est de savoir ce que j'allais faire le soir en rentrant. Est-ce qu'il serait là, est-ce qu'il serait pas là, est-ce qu'on va abuser de moi? Moi, ça ne me plaît pas, c'est quelque chose qui me fait mal, qui me donne des terreurs nocturnes. Mais à cet âge-là, on ne se rend pas compte qu'il y a une transgression de l'interdit et c'est là que ça se joue. Ça détruit absolument tout ce qui fait la construction de l'enfance.
À 11 ans, Angélique est placée dans un foyer. Après une visite chez elle, elle raconte ce qu'elle vit aux éducateurs. Les gendarmes lui demandent des preuves. La fillette en est incapable. La plainte est classée. Sa mère n'est même pas prévenue.
La société m'a failli à moi, mais elle a aussi failli à toutes les autres petites Angéliques parce que moi, j'ai osé parler, mais que ça n'a juste rien changé. On ne m'a pas cru, mais on m'a presque traité de menteuse. Je vis dans la terreur pendant des années après ça et j'ai dû me reconstruire avec ça.
Son beau-père et sa mère se séparent quelques temps après. Angélique ne l'a jamais revue. Après une thérapie, elle est aujourd'hui mère de deux filles bénévoles dans une maison d'accueil pour les victimes d'inceste et membre de la commission sur le sujet qui lance cette plateforme pour recueillir les témoignages.
Je pense que c'est un moyen d'entendre les anciennes victimes qui ont eu ce manque de reconnaissance de la part des institutions.
Et ces témoignages aideront la commission à formuler ses propositions.
La commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui rendra ses propositions en 2023. Le numéro de sa plateforme, c'est le 0805 802 804. Elle s'adresse aux victimes adultes qui ont donc subit ces violences dans leur enfance.
21 septembre 2001, 10h17.
La date et l'heure de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, si violente qu'elle provoqua l'équivalent d'un séisme de 3,4 sur l'échelle de Richter. 31 morts, des milliers de blessés et de sinistrés. On se souvient de ces vitres éclatées sur des kilomètres à la ronde, de ces bâtiments soufflés, de ces voitures presque compressées sur la rocade. Mais à Toulouse, chacun garde le souvenir précis de ce jour et de cette heure où la ville a tremblé. Marine était au lycée.
Et j'étais donc dans cette classe en entresol au lycée Ozène et il fait très chaud et bizarrement je dis à mes copines on peut pas ouvrir la fenêtre juste qu'on respire un petit peu et on s'attendait pas à prendre 10 secondes après un souffle, une explosion incroyable qui nous a projeté contre le mur. Donc là, la panique, quand on sort tout le monde est dehors déjà plus ou moins dans la cour. Et là, on commence à avoir des visages un peu ensanglantés. Des étudiants comme moi qui avaient pris des débris de vitres. Moi, personnellement, je pensais qu'une bouteille de gaz avait explosé la rue derrière. Je me suis dit, il y a un attentat. Parce que je pense que chaque Toulousain qui a vécu à ZF pensait que ça se passait dans sa rue, ça se passait à côté de lui, chez lui, quoi.
Comme cette ancienne lycéenne, effectivement, chaque Toulousain a gardé la mémoire de l'explosion 10 jours après les attentats du 11 septembre. Bonjour Stéphanie Mora.
Bonjour.
Vous êtes à Toulouse où les cicatrices sont toujours là, à commencer par le lieu de l'explosion, cette usine AZF et ses 300 tonnes de nitrate d'ammonium.
Oui, aujourd'hui, de l'explosion, il ne reste qu'un cratère rempli d'eau. Depuis le périphérique où tant de voitures avaient été soufflées il y a 20 ans, eh bien, on ne le voit pas. Il est caché par de la broussaille. Et il faut vraiment longer la route d'Espagne pour voir l'entrée de l'usine restaurée comme dans les années 20, quand l'ONIA était pourvoyeuse d'emplois, positive. Et au loin seulement, on aperçoit le mémorial, dont le parcours mémoriel, n'est inauguré que ce matin. Il aura fallu 10 ans pour le concevoir. C'est bien la preuve que cette mémoire à Toulouse, elle reste éclatée, parce qu'entre les salariés de l'usine qui réfute toujours la thèse de l'accident, les citoyens sinistrés et une partie de la gauche qui réclame toujours la condamnation de Total, et puis le personnel politique qui a poussé le groupe pétrolier à indemniser vite, ces mémoires sont trop irréconciliables. Alors ce matin, entre encore, les commémorations se feront en ordre dispersé, chacun de son côté. Autre signe, Florence, que cette mémoire est compliquée à gérer pour Toulouse, c'est la discrétion de ce 20e anniversaire. Aucun membre du gouvernement, aucune personnalité nationale ne sera présent. Il y a 10 ans, le secrétaire d'État au logement Benoît Apparu, la candidate écologiste à la présidentielle Eva Joly, ou encore les leaders de la CGT et de Force Ouvrière étaient venus. 20 ans après, on a le sentiment que la Ville Rose hésite encore entre le devoir de mémoire et le besoin d'oublier le nuage orange d'AZF.
Fanny Mora, merci. France Bleu, Occitanie. Aux États-Unis, le constat est incroyablement douloureux ce matin. Le Covid-19 a tué plus d'Américains que la grippe espagnole en son temps, 1918-1919. Plus de 675 700 personnes sont mortes du Covid aux États-Unis, ce qui explique sans doute ces longs mois de fermeture des frontières qui vont rouvrir à partir du 1er novembre pour les Européens vaccinés. Washington l'a enfin annoncé hier. Une décision qui tombe à point nommé en pleine crise des sous-marins entre la France et les États-Unis. La France qui a reçu le soutien des autres Européens cette nuit, dont les ministres des Affaires étrangères sont réunis à l'ONU. Mais c'est bien le grand affrontement du moment qui sera mis en scène aujourd'hui à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec le discours de Joe Biden en ouverture, suivi quelques heures plus tard de celui du président chinois Xi Jinping, l'Américain qui ne fait pas mystère de ses préoccupations, quitte à reprendre à son compte l'esprit Amérique d'abord de Donald Trump. À Washington, Sébastien Paour.
Joe Biden désigne son adversaire principal dès son premier discours de politique étrangère. Nous sommes au Département d'État le 4 février, 2 semaines après son investiture. Nous nous attaquerons aussi directement aux défis que pose notre prospérité, notre sécurité et nos valeurs démocratiques à notre concurrent le plus sérieux, la Chine. Nous ferons face aux abus économiques de la Chine. Nous contrerons son action agressive et coercitive pour repousser les attaques de la Chine contre les droits de l'homme, la propriété intellectuelle et la gouvernance mondiale. Ce jour-là, Biden assure à plusieurs reprises que l'Amérique est de retour sur la scène internationale. Le slogan ressemble à l'Amérique d'abord de Trump, mais Biden rassure ses alliés pendant les premiers mois. Il cite l'Europe et l'OTAN. On le voit bras dessus bras dessous avec Emmanuel Macron au G7 en juin en Cornouailles. Terminé, semble-t-il, l'unilatéralisme de l'administration précédente. Sauf que le retrait d'Afghanistan a montré le contraire. Peu ou pas de consultations en amont. Berlin et Londres regrettent d'avoir été mis devant le fait accompli. Exactement comme Paris dans l'épisode des sous-marins australiens. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Au Canada, c'est un peu une élection pour rien. Justin Trudeau, le premier ministre libéral, est en passe de remporter les législatives, mais sans récupérer de majorité. Ce qui était son but quand il a décidé de rappeler les Canadiens aux urnes.
Il est 8h09, Florence. Il se préparait pour une guerre raciale imminente.
6 membres d'un groupuscule d'ultra-droite seront jugés à partir d'aujourd'hui à Paris. Arrêtés en 2017 alors qu'ils envisageaient de passer à l'acte, réunis sous le nom d'OAS et galvanisés, l'Aurélie Carif par un jeune homme de Vitrolles.
En 2017, Logan Nizin, 21 ans, chaudronnier, est déjà dans les radars des services de renseignement. Fiché S pour son appartenance à divers mouvements de l'ultra-droite, le MPNA, inspiré du parti néo-nazi grec Obdoré, ou encore l'organisation royaliste Action Française. Mais c'est en s'intéressant à la page Facebook, dont il est l'administrateur, que la police décide de l'interpeller. Une page à la gloire du terroriste norvégien d'extrême droite, Anders Breivik. Chez Logan Nizin, à Vitrolles, les enquêteurs découvrent des armes, ainsi que des documents qui révèlent l'existence d'un groupe dont il est le fondateur. Son nom, OAS, pour Organisation des Armées Sociales. Plusieurs cibles sont évoquées, des restaurants kebab, le chantier de la grande mosquée de Vitrolles, mais aussi des personnalités, Christophe Castaner ou encore Jean-Luc Mélenchon. Des projets qui, de toute façon, seraient restés à l'état d'ébauche, avance Éric Bourlion, l'avocat du jeune homme.
Aujourd'hui, il dit « mais je ne serais jamais passé vraiment à l'acte ». C'était pour se faire mousser, pour épater les copains et aller de plus en plus haut. Mais le personnage que je connais depuis 4 ans est toujours en train de peser le pour et le contre. C'est quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Alors c'est vrai qu'il avait ses idées totalement inadmissibles, mais je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, on donne une importance bien trop importante à la réalité de ce que pouvait commettre Logan Nizin.
À ses côtés vont être jugés 5 autres membres de l'organisation. Logan Nizin est le seul à comparaître détenu.
Le procès va durer jusqu'au 6 octobre et les 6 hommes risquent jusqu'à 10 ans de prison. Là, c'est un procès qui aura lieu au mois de mars pour travail dissimulé. Ce sont d'anciens dirigeants de Deliveroo, la plateforme de livraison de repas, qui sont renvoyés devant la justice pour avoir employé des milliers de travailleurs sous un statut d'indépendant alors qu'ils auraient dû être salariés. Et puis toujours au chapitre justice, on apprend que 2 moines d'un couvent catholique intégriste du Rhône ont été mis en examen la semaine dernière, interpellés en flagrant délit alors qu'ils s'en prenaient à des antennes relais au nord-ouest de Lyon et dans le Beaujolais. Ils ont reconnu les faits, disant vouloir protéger la population des effets nuisibles de la 5G.
Et non, Florence, non, Alzheimer n'est pas une fatalité.
Pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas grand-chose à faire contre la maladie qui touche chaque année 200 000 personnes supplémentaires en France. Or, il y a des pistes d'espoir, des avancées dans les traitements. Et cette journée mondiale Alzheimer nous donne l'occasion, Véronique Julia, de faire le point.
Si on résume les 30 dernières années en matière de recherche Alzheimer, on a tenté d'abord des traitements sur des malades à un stade trop avancé. Ça n'a pas marché. On a ensuite essayé de les traiter plus précocement, mais sur la base d'un diagnostic clinique, sans savoir à 100% si on avait vraiment affaire à des cas d'Alzheimer. Ça n'a pas été très concluant non plus. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. On sait qu'il faut traiter au stade précoce. On sait trouver les marqueurs biologiques de la maladie dans le liquide céphalorachidien. Ils confirmeront s'il s'agit bien d'Alzheimer avec cette accumulation caractéristique de plaques dites amyloïdes dans le cerveau. On dispose enfin d'anticorps monoclonaux dont la mission va être justement d'aller détruire ces plaques. Le professeur Bruno Vélas, responsable du centre mémoire au CHU de Toulouse, est optimiste.
Là, c'est des traitements qui vont lutter contre les causes de la maladie. Le but, c'est de diagnostiquer tôt et faire en sorte de diminuer la progression. D'après les premières données qu'on a, on diminuerait la progression de 30%. Donc c'est quand même significatif. Et puis si on traite plus longtemps à des doses fortes, peut-être qu'on va diminuer de plus en plus.
Plusieurs types d'anticorps sont à l'essai. Certains ciblent une autre protéine, la protéine Tau, qui est un autre marqueur d'Alzheimer. Aux États-Unis, l'un de ces traitements est déjà autorisé, mais il est très cher. En France, pas encore. Optimisme également en ce qui concerne les outils diagnostiques. La recherche des biomarqueurs de la maladie, qui se fait aujourd'hui via une ponction lombaire, devrait pouvoir se faire bientôt via une simple prise de sang.
Véronique Julia, y aura-t-il un vent de panique sur les marchés? Les bourses du monde entier ont vacillé hier dans le sillage de Hong Kong. La grosse inquiétude vient de Chine, où le géant de l'immobilier Evergrande doit rembourser ses 260 milliards de dettes et risque de peser sur la croissance de la deuxième économie mondiale. Pour lui, la bourse sera une très bonne affaire aujourd'hui. Vincent Bolloré y fait entrer la poule aux œufs d'or de son empire, la maison de disques Universal, qui devrait lui rapporter 5 à 6 milliards d'euros et lui permettre de se recentrer sur ses activités médias. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Universal, c'est un géant de l'industrie musicale.
Oui, le catalogue Universal Music a de quoi donner le vertige. On y rencontre aussi bien les Rolling Stones, Rihanna, les Beatles, Bob Marley, que Lady Gaga, Queen, Mylène Farmer, ou tout récemment Bob Dylan et Aerosmith. Après des années de vaches maigres pour l'industrie du disque, Universal Music truste désormais les podiums des plateformes de streaming avec Billie Eilish, Taylor Swift, The Weeknd, Drake ou Kanye West. 8 des 10 artistes les plus écoutés sur la planète sont aujourd'hui estampillés Universal Music.
Et après des années de pertes, d'effondrement, on s'en souvient des ventes de CD, de piratage en ligne. Laurent, Universal est redevenu une grosse machine à cash.
Oui, le catalogue Universal Music assure à lui seul près de 450 millions d'euros de bénéfices nets à Vivendi cette année. Sa part de marché mondial sur les écoutes en ligne a progressé de 25% depuis le début de l'année, lui permet d'afficher près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit la moitié des revenus de Vivendi. Universal est également éditeur de musique et récolte ainsi les droits de diffusion de ses artistes dans les films, publicités et réseaux sociaux. Sa valorisation boursière pourrait atteindre entre 35 et 50 milliards d'euros, selon les estimations.
Laurent Kramer, merci. Les sanctions de la Ligue de foot sont tombées après les débordements du derby Lens-Lille samedi dernier. Ce sera 2 matchs à huis clos pour le RC Lens à Bollard et une interdiction de déplacement des supporters lillois, au moins temporairement. Enfin, des doutes sur la probité des prix littéraires. C'est assez courant en cette saison. On parle souvent de collusion avec les maisons d'édition, mais ça n'est pas le problème cette fois, non. Cette année, la première sélection du prix Goncourt est entachée par une question de conflit d'intérêts personnel. L'un des 16 écrivains sélectionnés n'est autre que le compagnon de l'une des jurées, la romancière Camille Laurence. Les membres du jury étaient au courant, Ilana Mor-Youssef, et sont passés outre.
Certains ont tiré la sonnette d'alarme au début de l'été, mais c'est le 7 septembre dernier, première réunion de la saison pour le Goncourt, que la question s'est vraiment posée. Que faire avec le roman de François Nudelman ? L'écrivain est le compagnon de l'une des jurées, la romancière Camille Laurence. Conflit d'intérêts caractérisé ? Non, estime Didier Decoin, le président de l'Académie Goncourt.
Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'œuvre. Les liens que l'auteur peut avoir ou ne pas avoir avec X ou Y, ce n'est pas vraiment notre problème. Et puis, on est arrivé à la conclusion que de toute façon, ils n'étaient quand même pas mariés. Je ne sais même pas s'ils sont pas taxés. Enfin, c'est son compagnon. Il n'y avait pas de raison à cause de ça de pénaliser un livre. Donc, on a voté, une majorité s'est dégagée en faveur de le livre peut paraître sur la liste sans problème.
L'histoire ne s'arrête pas là. Dans le journal Le Monde, où elle est chroniqueuse, Camille Laurence s'est livrée la semaine dernière à une attaque d'une violence inouïe contre la romancière Anne Berest, dont le livre figure lui aussi sur la liste du Goncourt. Il évoque la Shoah, comme celui de Nudelman, mais avec un succès commercial plus grand. Cette attaque publique, Didier Decoin ne la digère pas.
Ça, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout. À partir du moment où l'Académie vote pour un livre, Camille faisant partie de l'Académie, elle est solidaire, elle doit être solidaire. Et elle n'a pas tout d'un coup à décréter que ce livre est une nullité. Ça, j'ai pas apprécié du tout. Et nous en parlerons.
Sollicité par mail et par SMS, Camille Laurence n'a pas répondu.
Voilà, un parfum de conflit d'intérêts dans le jury du Goncourt. C'est une information France Inter signée Ilana Mor-Youssef à lire également sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et encore pas mal de grisailles ce matin.
Oui Nicolas, l'humidité des jours précédents donne encore des brouillards ou des nuages bas du Cotentin à la Bretagne, en descendant sur les Charentes à la Gironde, mais aussi du sud-ouest en remontant sur le centre jusqu'au Grand Est, alors que le soleil est déjà présent du nord à la Normandie, à l'Île-de-France, ainsi que sur la façade est et autour de la Méditerranée, sous des températures assez fraîches. Ce matin, pas plus de 7 degrés dans la Somme, 8 dans l'Aisne et en Lozère, 9 à Quimper, alors qu'on relève 21 au Cap-Corse, 18 à Nice, il fait 13 à Paris comme à Lyon, 10 à Mulhouse et à et vous avez 14 à Bordeaux.
Et c'est le retour du soleil sur le nord cet après-midi.
Oui, après la dissipation des grisailles matinales, les conditions météo redeviennent clémentes pour ce dernier jour de l'été, avec ciel bleu donc et soleil généreux sur la moitié nord. En revanche, le temps sera plus mitigé au sud de la Loire, avec quelques passages nuageux qui peuvent localement donner inondés, notamment des côtes varoises ainsi que sur le relief corse, avec toujours cette tramontane et le mistral, et les pluies qui vont arroser encore sur les Pyrénées. On va retrouver des températures de saison, 18 à Guéret, 19 à Lille, à Deauville comme à Aurillac. Vous aurez 20 à Strasbourg, 21 à Paris, à Vesoul, 22 à Rennes comme à Grenoble ou Bordeaux. Il fera 23 à Sète, 25 à Marseille et Saint-Raphaël et 26 à Ajaccio.
Marie-Pierre, merci et à tout à l'heure. Il est 8h19, vous écoutez France Inter, géopolitique.